Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Manger et cuisiner peuvent devenir des actes de pleine conscience et nourrir notre vie spirituelle au quotidien. Tiens, prenez cette pomme de saison que Chardin aurait pu peindre en d'autres temps. Regardez-la, admirez les jolies teintes de cette royale gala, ce dégradé d'oranger, de rouge et de jaune. Admirez le beau vert de cette Granny Smith. Soupesez cette lourde golden gorgée de sucre. Croquez avec lenteur dans cette belle de Boscope. Accueillez cette bouchée sucrée, acidulée et juteuse. Laissez votre palais, votre langue faire connaissance avec ce fruit d'automne. Mâchez lentement, imprégnez de salive ce fruit bio et de saison de préférence. Fermez les yeux, prenez le temps de mastiquer pour exprimer toutes les saveurs et les flaveurs. Ainsi, vous redécouvrez les bienfaits sensoriels, gustatifs, mais également les vertus thérapeutiques de cette pomme banale en apparence. Méditez en mangeant pour se faire du bien, cuisinez en pleine conscience pour prendre soin des autres, profitez pleinement du moment présent avec eux, loin des écrans et de la charge mentale numérique. Mes complices cet après-midi, Éric Libio et Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Héloïse Brion.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du site Miss Maggie's Kitchen et vous venez de publier un beau livre de recettes et d'art de vivre publié chez Flammarion qui s'appelle tout simplement chez Miss Maggie's Kitchen. Bonjour Ariane Grumbach.
Bonjour.
Vous revendiquez le titre de diététicienne gourmande. Ça peut paraître un petit...
Un oxymore,
voilà. Mais bon.
Non. La privation ne marche pas. Donc je défends la gourmandise et justement quand on mange en pleine conscience, on peut être gourmand et profiter vraiment de ce qu'on mange.
Et vous avez préfacé chez First, cuisiner c'est méditer. Comment la cuisine peut nourrir notre vie spirituelle. C'est un livre de Dana Velden. Bonjour Thomas Hull.
Bonjour Ali.
Vous êtes naturopathe, vous avez créé un centre consacré à la détox et aux jeûnes et randonnées dans la Drôme. Et vous êtes l'auteur en poche chez Pocket du livre « Et si je mettais mes intestins au repos ». Bonjour Flavia Mazolin-Selvi.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédactrice en chef du hors-série de Psychologie Magazine, « La cuisine qui fait du bien ». Cuisiner simplement avec des produits bruts, de qualité de saison, peut produire des miracles. D'un point de vue physique et psychologique.
Oui, si on prend le temps de vous avez employé le mot méditer, mais d'être en conscience de ce que l'on a dans les mains, d'où ça vient, ce que l'on reçoit, ce que l'on va en faire. C'est vraiment un cheminement intérieur, une introspection active aussi, la cuisine.
Ça permet de résister à quoi ? De cuisiner, de manger en pleine conscience ?
Bien déjà de sortir de la course folle des contraintes et de nos journées remplies d'automatismes, ça permet de faire des haltes, de suspendre un peu le temps et d'être à ce qu'on fait, et aussi d'échapper au mental et à la virtualité qui sont vraiment les deux pôles de nos vies et les deux stresseurs principaux de nos vies. On est beaucoup dans la tête, dans la rumination mentale, dans les projections, et beaucoup dans le virtuel aussi. Et la cuisine, c'est revenir au faire aussi, aux mains, à l'intelligence des mains, à l'intelligence des émotions, du cœur. C'est vraiment une voie spirituelle très simple, très modeste, mais ces pauses, même si on n'en fait qu'une dans la journée ou une par semaine, sont vraiment remplies de sens si on prend le temps justement de voir tout ce qu'elles ont à nous offrir.
Héloïse Brion, cuisiner, ça vous nourrit spirituellement ?
Ah, complètement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai fait un gros burn-out. Et c'est vrai que le fait de refaire les choses avec les mains, aujourd'hui, on a beaucoup de métiers, justement, dans le virtuel, où on double-clic, on swipe, etc. Et là, de faire les choses avec ses mains, ça recentre, on se recentre avec son être, son âme. Donc, c'est important.
Tout à fait. Swiper, rappelez-nous ce que ça veut dire.
Non, mais c'est quand on passe d'une image à l'autre, sur les réseaux sociaux,
avec
son pouce, exactement.
Thomas, pourquoi est-il nécessaire de manger en pleine conscience? Pourquoi est-il essentiel de cuisiner en s'ancrant dans le moment présent ?
Pour être relié, pour comprendre ce qui se passe, c'est vrai que l'alimentation, on est souvent déconnecté. Finalement, on mange par automatisme, on mange par émotion, on mange par compensation. Et le fait de cuisiner nous ramène à l'origine des produits, déjà, donc au goût, à l'émotion, à la sensation, mais également à cette intelligence, en tout cas à la nécessité d'apporter des nutriments de qualité à son corps. Donc quand on cuisine, c'est un cheminement pour prendre conscience que les nutriments que l'on va cuisiner vont également nous nourrir à différents niveaux.
Ariane Grumbach, quand on cuisine, il est bon de faire la paix avec des actes qui peuvent paraître à certains banals et monotones, hein.
Ben, tout à fait, dans la mesure où la plupart des personnes sont un peu obligées de cuisiner, autant en faire un moment, effectivement, qui soit un moment sensoriel pour tous les sens, qui soit un moment peut-être apaisant ou joyeux, mais qui où on est complètement, justement, comme disait Flavia, dans le présent et pas juste dans la destination, c'est-à-dire « Ah, il faut préparer le repas », mais vraiment profiter du moment.
Vous recevez dans votre cabinet de diététicienne nutritionniste des patients qui mangent mécaniquement, oublie ce qu'il mange.
Je travaille à Paris, donc j'en reçois beaucoup, ouais. Comme ça. Ouais. Et effectivement, c'est un cheminement, c'est-à-dire que la première étape, c'est peut-être effectivement d'être plus conscient quand on mange, d'accepter de prendre ce temps, sans que ce soit une obligation de tous les repas, mais vraiment être plus à ce qu'on fait. Donc ça commence quand on arrive à table, de prendre peut-être un temps pour se poser, pour regarder les aliments, pour se demander d'où ils viennent, hein, comme vous disiez. Et puis prendre le temps de savourer chaque bouchée, d'avoir du plaisir sensoriel à manger. Et c'est un cheminement, puisque après plus on fait attention à ce que on met dans sa bouche, plus petit à petit on va s'intéresser aux aliments, donc avoir envie de cuisiner, donc devenir exigeant sur les produits.
Thomas Hull.
Oui, tout à fait. Être gourmet et être gourmand se rejoint à ce niveau-là. Apporter vraiment cette conscience du goût, cette conscience d'être présent à ce que l'on ressent quand on mange. Et souvent, on est déconnecté de cela, finalement. Quand on mange mécaniquement, on est simplement dans le fait de manger, mais on n'est plus du tout, on a fini sa bouchée, on a même oublié.
Oui, mais d'ailleurs c'est une des choses aussi qui fait que ça permet, si on en a besoin, de perdre du poids, puisque quand on prend plaisir à manger, qu'on est conscient, d'abord on va beaucoup mieux sentir le moment d'arrêter, et puis on va avoir eu suffisamment de plaisir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se resserrent, parce qu'en fait elles n'ont même pas eu conscience de ce qu'elles ont mangé. Et à partir du moment où on conscientise ce qu'on mange, ben, on est satisfait et du coup on peut s'arrêter sans avoir aucune frustration et avoir eu du plaisir, mais aussi pouvoir passer à autre chose.
Flavia Mazzolin-Salvi, quand on cuisine pour les autres, avec attention, avec cœur, on mange spontanément, en conscience?
Mais quand on, oui, enfin, quand on cuisine pour les autres, on est déjà, alors c'est dans le moment présent, mais aussi on peut en faire aussi une interrogation de ce qu'on va donner, ce qu'on va offrir de soi, un morceau d'identité de soi, un morceau d'histoire qui peut être l'histoire du moment, de ce qui se passe, de ce qu'on a repéré chez l'autre, un plat familial qu'on a envie de tradition familiale qu'on a envie de faire découvrir, faire à manger pour les autres, c'est donner de soi avant même donner l'aliment préparé. C'est-à-dire qu'il y a toute une ouverture, on va dire un peu de manière pompeuse, d'ouverture du cœur, qui fait que c'est une passerelle. C'est voilà, je pars de moi, donc qu'est-ce que je vais donner à ce moment-là et comment l'autre va le recevoir. Mais on est vraiment dans le dialogue.
Moi, j'ai justement l'impression que celui qui reçoit mange avec davantage de conscience des saveurs, des textures, des odeurs du plat que l'on mange, parce qu'il a été préparé par l'autre avec attention.
Alors là, chacun, je pense, c'est vraiment une histoire personnelle. Voilà. C'est vrai que quand je cuisine pour les autres, moi, c'est au moment où je cuisine et que je goûte, c'est là où j'ai l'impression d'être à 100%, parce que justement, je suis dans un état de vigilance et d'anticipation de ce qui va être fait. Mais c'est vrai que recevoir, normalement, on a tous les sens et la conscience ouverte et un sentiment de gratitude aussi.
Hélène Brion, vous avez grandi entre deux pays, les États-Unis et la France. Quand vous veniez en vacances en France, au cœur des montagnes des Pyrénées-Orientales, ouais, dans votre vieux mas familial, sans électricité, chaque repas simple devenait une fête. Vous receviez la famille, les amis de passage, les voisins, et vous cuisiniez tous ensemble, en pleine conscience, sans le savoir, sans mettre cette expression-là quand vous faisiez cette activité.
Exactement, parce qu'il fallait vraiment... C'est vrai que c'était tout, vous pensez, on allait chercher les fruits et les légumes chez le paysan du coin, le fromage de chèvre, le miel, et on cuisinait avec le feu, du coup, et ça prenait du temps, mais c'est vrai que c'était toute génération confondue, et donc tout le monde participait, et c'était vraiment tout un rituel d'une grande tablée, on était 25-30 à table à chaque fois, et on avait les vraies saveurs des aliments, et on prenait le temps, je pense que ça m'a vraiment formée sur le tout, sur la cuisine.
Question de Marie-Laure Zonshine.
Oui, est-ce que finalement ce mouvement, je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement, ou en tout cas cette prise de considération de la nourriture en pleine conscience, finalement c'est pas le revers de la médaille de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des injonctions alimentaires alimentaires, des scandales sanitaires aussi, une inquiétude sur ce qu'on a dans l'assiette. Est-ce que c'est finalement le balancier qui s'effectue où on se dit il y a trop de d'informations
et de stress ? Alors, faut pas que ce soit une nouvelle injonction non plus. C'est ça. Oui, mais que ce soit une obligation. Oui.
Mais je sais pas, est-ce qu'on avait conscience de tout cela il y a encore 20 ou 30 ans en ouvrant un plat sous vide avec une tranche de jambon qui avait une drôle de couleur et beaucoup de sel dedans. Aujourd'hui, on a au moins conscience de ça, ce qui est déjà pas mal.
Flavia Bazelin.
Oui, c'était pas valorisé aussi la cuisine. Vous parliez d'il y a 30 ans, 20 ans, enfin, c'est allié aussi au mouvement de libération des femmes. Et ça a été, dans un premier temps, associé à tout ce qui était soumission à l'ordre patriarcal, effectivement. Et c'est depuis quelques années une reconquête par les hommes, par les femmes, mais c'est vrai que tout ce qui était industriel, rapide, a été aussi un facteur de libération de la femme qui a pu travailler et en même temps, voilà, la famille était nourrie. Donc, ombre et lumière à chaque fois, hein, c'est jamais...
Thomas Hull, quand on vient jeûner et randonner dans votre centre ou quand on vient faire une détox, il s'agit également d'une reconquête.
Tout à fait, c'est une reconquête de soi, des autres également, et également de son rapport à l'alimentation, de son rapport à son hygiène de vie au sens large. Et il est surprenant de voir que quand on jeûne, on questionne vraiment ce rapport à l'alimentation. On se voit manger, des fois trop rapidement, sans conscience, et on voit apparaître l'envie. L'envie de manger différemment, l'envie de manger des aliments qui ont du goût, de pouvoir le partager également, parce que quand on est en forme de retraite, finalement, qu'on ne mange pas, on espère remanger, bien évidemment, et on a envie de manger, du coup, qualitativement, et on a envie de le partager.
Quand on jeûne de façon encadrée, évidemment.
Bien sûr.
Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Je propose d'écouter une chanson de 1996. Cette année-là naissait la chanteuse et comédienne Louane Emra, et disparaissait Jerry Siegel, le co-créateur du personnage de Superman. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Scène, le septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner, traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds, Paris Eldorado sur l'eau.
Étienne Dao et Astrud Gilberto ont interprété Les Bords de Seine.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Cuisiner et manger en pleine conscience, c'est notre thème cet après-midi.
Vous allez ouvrir votre main, je vais vous mettre ce petit truc dans la paume de la main. Et juste, vous, pour l'instant, faites rien.
Un petit truc qui n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais ce grain de raisin aide en fait les patients dépressifs à sortir de leurs idées noires et morbides. C'est un moyen étonnamment simple de focaliser ses pensées sur l'instant présent.
Découvrant sa texture, donc le presser un peu entre le pouce et l'index. Et puis lentement, on va l'amener tout près de l'oreille et on va le presser un peu, essayer d'écouter le son qu'il produit à notre oreille. Et puis délicatement, on va l'amener de l'oreille aux narines. Et maintenant, doucement, on le descend et on le met dans la bouche, sur la langue. Chez certaines personnes, ce grain de raisin n'est pas agréable. Chez d'autres, c'est plutôt des commentaires ou de jugements. Pourquoi il nous fait faire cet exercice? Et l'idée, c'est pas du tout de faire abstraction de ça, mais c'est de en prendre conscience et toujours pour nous entraîner à en revenir au moment présent et à l'exercice tel qu'il est demandé.
Extrait du documentaire « Les étonnantes vertus de la méditation » diffusé sur Arte en 2017. Bonjour, professeur Corinne Isnarbanis. Bienvenue.
Bonjour, Ali. Alors, Bonjour à tous. Vous êtes
néphrologue à la Pitié-Salpêtrière et vous avez publié le Que sais-je consacré à la méditation. Que veut dire méditation de pleine conscience pour les néophytes?
C'est la méditation dans laquelle on ne fait rien d'autre que d'être à ce qu'on fait et de porter son attention sur nos expériences, nos sensations.
C'est être conscient de ce qui se passe là maintenant, c'est pas du tout faire le vide dans sa tête, hein.
Non, parfois le vide va se faire tout seul et parfois on va pouvoir simplement observer qu'il se passe plein de choses à l'intérieur de notre tête et de notre corps aussi d'ailleurs.
Alors que veut dire exactement manger en pleine conscience? On vient d'entendre là un extrait du documentaire et la méditation du raisin sec, elle est fréquemment utilisée dans certains services hospitaliers qui utilisent la méditation.
Cette méditation du raisin, elle fait partie du programme qui a été proposé par Jon Kabat-Zinn, donc qui est un des programmes finalement les plus enseignés sans doute à l'heure actuelle en France et en français, et dans le monde, très très populaire on va dire. Et donc c'est un exercice dans lequel on utilise un objet qu'on va redécouvrir, ce petit raisin, qu'on va redécouvrir en utilisant tous nos sens, c'est-à-dire la vue, le goût, le contact, la sensation, l'ouïe. On va faire rouler ce petit raisin à notre oreille et découvrir qu'il va pouvoir avoir des petits craquements. Le fait de le manipuler va induire aussi quelques sons. Et on va vraiment redécouvrir toute la subtilité et la richesse de ce qui peut se passer quand on est en lien avec un aliment, si tant est qu'on y porte vraiment attention.
Quand on n'aime pas méditer, assis, à ne rien faire, entre guillemets, on peut peut-être s'exercer à méditer en mangeant, de faire du repas une méditation?
Oui, bien sûr, absolument. Cet exercice du raisin, c'est un exercice un petit peu formel qu'on fait souvent en groupe, dans le cadre d'une pratique vraiment en silence, au calme, etc. Mais on peut évidemment profiter de tous les instants du quotidien où on mange, et ça se produit plusieurs fois par jour, en général, pour décider qu'on va le faire en pleine conscience, tout seul ou avec d'autres.
Thomas, je rappelle que vous êtes naturopathe.
Alors ça me fait penser à la monodiète de raisin, bien évidemment, où du coup quand on ne mange qu'un seul aliment pendant un certain temps, on fait le tour vraiment de cet aliment, et c'est très intéressant comme pour la pomme ou d'autres fruits ou légumes, et c'est vrai qu'on rentre naturellement au bout d'un moment dans considérer cet aliment sous toutes ses formes.
Ariane Grandbach, diététicienne.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne fais pas l'exercice du grain de raisin, mais je fais plutôt déguster en pleine conscience des aliments, soit que les personnes adorent, du fromage, du chocolat, en se rendant compte que effectivement, quand on est vraiment dans toutes les sensations, on peut, comme il y a beaucoup de sensations, on peut s'arrêter facilement, ou des aliments qu'ils idéalisent, que des biscuits de leur enfance, etc. Et qui, quand ils les mangent en pleine conscience, finalement, ils disent, mais c'est pas bon du tout. Et ça permet de les abandonner, finalement, pour de bonnes raisons.
Corinne Isnarbanis, pourquoi est-il si important de manger en pleine conscience?
Bon, parce que on est dans un monde dans lequel on est sollicité constamment pour manger, en fait. Et on a un peu oublié qu'on n'est pas obligé de manger tout le temps et qu'on peut aussi ressentir le vide, la faim et être content de ça. C'est-à-dire... l'apport alimentaire n'a pas besoin d'être constamment là. Et du coup, on retrouve un certain degré de liberté. En se connectant à ses sens, finalement, on retrouve cette espèce d'alimentation intuitive qui fait que on va prendre le temps de manger, de savoir à quel moment il faut s'arrêter, de quoi le corps a besoin. Est-ce qu'on mange parce qu'on a des pensées dans la tête qui nous donnent des injonctions? Aujourd'hui, on est quand même très, très exposé à des consignes, on l'a déjà dit dans la mission tout à l'heure, ou bien est-ce qu'on mange parce que c'est une façon d'échapper à nos émotions négatives? Est-ce qu'on mange parce que c'est vraiment le corps qui en a besoin? Je crois que c'est vraiment une façon de se retrouver en lien vraiment direct avec avec notre corps, avec nos besoins, avec quelque chose de très sincère.
Flavia Mazelin de Psychologie Magazine.
Oui, on parle de manger en pleine conscience pour les adultes, mais pour l'avoir moi expérimenté avec mon fils il y a quelques années maintenant, puisqu'il est grand, je trouve que c'est... J'ai fait l'expérience que c'était un outil formidable d'éducation et de présence à soi, de lenteur, de pas tout gober, mais aussi d'affirmation de sa personnalité, de ce qu'on est. Moi, je lui demandais en préparant, de prendre le temps de dire ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, des saveurs. Donc, c'est vraiment à la fois un temps où il va être vraiment présent à ses sensations et les pré-ados, on va dire, sont pris par des tas de choses et où les enfants et c'est un peu un moment de calme, de retour à soi et aussi de conscience au fond de ses goûts, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de sa personnalité.
Et donc vous avez vraiment tout à fait raison. En plus, ça permet d'aller un peu plus loin que le j'aime pas. Oui. Est-ce qu'on n'aime pas la couleur, la texture, le goût, et pas généraliser on n'aime pas les légumes par exemple, mais de prendre conscience vraiment de ce qu'on préfère. Oui. Tout à fait.
Héloïse Brion, alias Miss Maggie's Kitchen.
Ouais, non, je suis assez d'accord. J'ai deux fils. Il y en a un qui aime manger de tout, qui est très curieux et qui mange avec bon appétit. Et l'autre qui est plus difficile, mais alors qui goûte quand même. J'ai envie qu'il goûte à tout, mais qui ne mange pas tous les jours forcément. Et je le force pas parce que je trouve que s'il a pas faim, il est en bonne santé, il n'y a pas de problème. C'est qu'il se régule tout seul. Et je pense que ça aussi, le côté de genre finis ton assiette absolument, je trouve que c'est très mauvais. Donc je pense que voilà, c'est.
Merci professeur Corinne Isnard-Bagnis. On peut lire avec profit votre Que sais-je consacré à la méditation. Ariane Grumbach, manger en pleine conscience, c'est utiliser ses cinq sens. Mais la posture, c'est très important également quand on mange.
Je crois que c'est mieux, si possible, de se mettre dans des bonnes conditions, donc de s'asseoir. Moi, j'avais inventé un acronyme qui est les trois As.
C'est-à-dire
que on définit assez la quantité qu'on va prendre par rapport à sa faim et son envie. On met ça dans une assiette, enfin, ou un récipient pour visualiser, et on mange assise pour vraiment profiter et être dans la conscience de ce qu'on mange.
Alors le problème, quand on prépare des choses très gourmandes, comme dans votre livre Héloïse Brion, on a envie de se précipiter, de manger vite. Comment on fait pour justement jouer avec cette gourmandise et justement manger lentement, pleine conscience, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est se précipiter sur certains plats très gourmands? Vous y arrivez, vous?
Ouais, je pense que c'est le fait de le partager avec d'autres, déjà, parce que du coup, il y a un échange, on discute, etc. Faut surtout pas être en train de regarder un écran ou autre chose. Enfin, c'est d'être vraiment, et quand on échange, forcément, quand on discute, normalement, on prend une bouchée, on attend, et voilà, on prend plus de temps, on savoure.
L'ennemi, c'est vraiment le portable, Ariane Grumbach, à table. Les écrans.
J'essaye de pas être dogmatique et pas être une ayatollah. Donc il y a des personnes qui mangent toutes seules et qui ont quand même besoin d'une présence, de, je dirais, la télé, la radio, pas être scotché à son portable. Et du coup, si c'est une présence qui prend pas toute l'attention, l'idée c'est d'arriver à focaliser une bonne partie de son attention sur ce qu'on mange, mais d'avoir peut-être quand même une présence si on en ressent vraiment le besoin.
Thomas Hull, votre point de vue?
La présence peut-être des éléments, la musique, des oiseaux, un bruit d'eau, ou être mangé en pleine nature, parce qu'il est vrai que tout ce qui est distrayant finalement nous amène vite à sortir quand même de la conscience de l'instant présent.
Marina Sunshine.
Oui, je vais peut-être vous faire hurler, mais il arrive parfois où on est heureux de manger. Je pense à cet épouvantable hamburger. Là, on se dit, allez, je m'en fais un ce mois-ci. Et celui-là, je trouve qu'on le mange en pleine conscience. On aime les tomates qui ressortent, la mayonnaise qui coule. Alors,
rien d'occasionnel n'est grave.
Bon, à part moi, ça va, là.
Bonjour, professeur Philippe Godberge. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue. Manger en pleine conscience, c'est bien mastiquer et la digestion commence par une bonne mastication, évidemment.
Écoutez, là, on rentre dans la question, c'est presque ce que la gastro-entérologie peut aider à tout ce qui a été dit précédemment, puisqu'on parle de manger, déguster, méditer. En fait, il y a deux arguments pour faire le plaidoyer de la mastication. La première, c'est que pour avoir conscience des choses, il faut se souvenir que les petits-enfants, la première chose qu'ils font, c'est de porter les choses à la bouche. Mmh. Et donc, c'est vrai que la première zone de sensation, à un moment où la conscience se réduit à peu de choses, c'est la bouche. Donc, c'est le point de départ de beaucoup de choses. y compris de cette pleine conscience.
Pourquoi manger?
Le deuxième élément, c'est qu'en termes, quand on parle de manger, ça a quand même une finalité qui est de se nourrir, et donc les aliments doivent être digérés. La digestion, elle va se faire par la dégradation, la fragmentation des aliments en tout petits morceaux qui sont à l'échelle d'une molécule pour pouvoir traverser notre tube digestif. Et cette fragmentation, elle va se faire à la fois par des moyens biochimiques, enzymatiques, mais aussi par des moyens mécaniques. Et cette mécanique, évidemment, elle commence par la mastication, c'est-à-dire la fragmentation au niveau de la bouche.
Et quels sont les risques quand on avale vite tout rond ce que l'on mange sans prendre le temps de mastiquer ?
Eh ben, ça a été évoqué tout à l'heure par l'un des intervenants, qui est effectivement très important. Alors, je m'excuse auprès d'elle, je n'ai pas mémorisé lequel l'a dit, mais le fait de manger et de mastiquer permet de manger lentement et donc de à l'organisme de percevoir le signal de satiété. La sensation que ce que l'on a mangé est suffisant par rapport aux besoins physiologiques du moment ou même aux besoins psychologiques va s'installer en fait de façon beaucoup plus lente que la vitesse à laquelle on avale. Ce qui fait que quand on avale un repas en une dizaine de minutes, au bout de 10 minutes, on peut toujours avoir faim. Si on le mange, si on l'absorbe plus lentement et donc en le mastiquant, d'une part sa digestion, qui est un phénomène qui aura lieu plus tard, sera meilleure, mais surtout sa digestion va permettre d'arrêter le signal de satiété. Et donc, on s'arrêtera en ayant un apport calorique plus court. C'est pour ça que la junk food ou la fast food, non seulement en termes diététiques, quand elle devient régulière, c'est un apport calorique qui est très gras, qui n'est pas adapté, mais aussi fait que en termes de volume, comme on le mange rapidement, ben, on mange peut-être plus que les besoins physiologiques.
Thomas Hull.
Tout à fait, c'est vrai que cette satiété, c'est une des clés de pouvoir sentir ce moment-là. C'est très difficile à appréhender, on le voit dans le quotidien, et c'est pour ça qu'il faut passer par ce temps-là de mastication ou se prendre peut-être une règle de se dire on pose les couverts entre chaque bouchée pour être dans le plaisir du partage et prendre cette information-là. On peut également, au préalable, commencer avec des fruits, peut-être 20 minutes, une demi-heure avant le repas, pour commencer la digestion et quand on arrive vraiment au repas en tant que tel, avoir commencé à avoir une information de satiété.
Et puis il y a une des bases de la pleine conscience, on n'est pas obligé de poser les couverts, mais pour moi la pleine conscience ou la présence, c'est de faire qu'une chose à la fois, et donc quand on a une bouchée dans la bouche qu'on mastique, on n'est pas déjà en train de se précipiter sur la bouchée d'après, mais on prend le temps de la finir et après on prend la bouchée suivante.
Et il y a aussi, Ali, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on se jette, on a très faim, on se jette sur un aliment, on peut commencer à le déguster avec les yeux et avec l'odorat aussi. Parce que c'est pas seulement au moment de la mastication de la bouche, bon ça c'est évidemment ça vient presque en second lieu, mais déjà regarder ce qu'on a dans l'assiette, donc si on a cuisiné en conscience, on l'a disposé un peu joliment, et puis aussi profiter des parfums, de tout ce qui se dégage de ce plat. On est déjà un peu pas rassasié, mais en tout cas, on est en plaisir, en sensorialité et en présence.
Philippe Godeberge.
Alors, en tant que soignant, c'est vrai que tout ça, c'est un peu théorique, dans la mesure où l'une des difficultés auxquelles on est confronté en pratique, c'est le changement d'une habitude qui est parfois profondément ancré. Soit dans la sociologie du patient, parce qu'il vous explique que dans son boulot, c'est pas possible, soit dans les habitudes qui fait que le rythme est pris et peut parfois continuer même une fois que les gens sont à la retraite. Et donc, ils sont là, voilà, ils se remplissent extrêmement rapidement, on gobe plus qu'on ne mange. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits artifices qui sont sa fourchette. Le portable peut paradoxalement aider avec un chronométrage du temps, pour que les gens aient la visualisation de la vitesse à laquelle ils mangent. Mais c'est quelque chose qu'il est relativement difficile de changer. Et donc, le message, c'est que c'est ce vers quoi il faut tendre. Mais si les gens n'y arrivent pas, il faut leur expliquer que d'abord, ils vont y arriver, mais que ce sera pas rapide, qu'ils vont échouer et que cet échec, il faudra qu'ils le corrigent, que ça peut prendre du temps. Et il faut être un peu persévérant. C'est-à-dire que si au bout d'un certain temps, ils n'y sont pas arrivés, il faut pas qu'ils envoient tout l'ortie en disant « bon, j'y arrive pas, tant pis, je laisse tomber ». C'est normal de ne pas y arriver. On nous répète depuis que c'était peut mieux faire. Et c'est vrai aussi pour ça.
Merci beaucoup, Philippe Godeberge, d'être intervenu. Allez, il est temps de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiou.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Il n'est toujours pas psychothérapeute, ni psychiatre, heureusement. Éric Libiot et ses choses presque vues.
Eh bien, aujourd'hui, Ali, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pleinement conscience de ne pas être un bon élève. Je mange vite, je ne respire pas les carottes, je ne coupe pas mon jambon en miettes et souvent je regarde la télé en avalant mon gratin de pommes de terre. Pour résumer, je suis plus pâte nature que naturopathe. Et comme je sais que Christophe André, que je salue, va me gronder, pour cette émission, j'ai décidé de faire un effort. L'autre jour, j'ai donc éteint les lumières, fermé les volets, respiré mon endive, mangé lentement et j'ai pris conscience d'avoir pleinement conscience d'être éveillé. Eh bien, en fait, c'était bien. Vraiment, je me disais bêtement, là où il y a du zen, il n'y a pas de plaisir. Eh bien si, il peut y en avoir, l'endive est passée comme un jambon beurre. J'étais donc très content de moi, et pour me récompenser, j'ai allumé la télé et je suis tombé sur La Grande Bouffe de Marco Ferreri. J'ai veillé et regardé le film, qui est bien sûr à l'opposé exact de ses repas en pleine conscience. On y voit quatre hommes, la bonne cinquantaine, manger jusqu'à plus soif. Ils décident de se suicider en abandonnant choucroute, cochon braisé et cassoulet en quantité gargantuesque. Marco Ferreri mélange bouffe, sexe et mort dans un grand ballet baroque présenté au Festival de Cannes en 73 et qui s'est fait découper en tranches après la projection. Les critiques ont trouvé la formule, le film est à vomir. Eh bien, les critiques ne pensaient pas si bien dire, le film est exactement fait pour ça. Mais avec le temps, le film a mijoté à petit feu et la raison est finalement revenue. La Grande Bouffe est en fait une critique de la société de consommation, du productivisme à outrance, de la malbouffe, des excès dans lesquels on tombe, là où il faudrait davantage de distance et de respect. Et donc Ali, eh ben, La Grande Bouffe et le repas en pleine conscience racontent exactement la même chose. L'un est juste le revers de l'autre. Il y a d'un côté la réalité et la raison, de l'autre l'imaginaire et les pulsions. Et ce n'est pas faire injure à Christophe André, que je resalue, ni à vous inviter, Ali, que de dire que si on va au cinéma voir quelqu'un qui sent ses carottes, caresse l'orange, mange en silence et avale dans la pénombre, pas sûr que le film soit si passionnant. Et oui, dans les choses vues, c'est souvent la raison qui l'emporte. Dans les choses presque vues de la fiction, c'est la pulsion qui gagne. Surtout quand fiction et friction font bon ménage. Mais on a besoin l'un de l'autre, même si parfois mon cœur balance, comme celui de Milou dans Le sceptre d'Ottokar, qui hésite, entre le sceptre qu'il doit ramener à Tintin et l'os qui lui ferait bien plaisir. Hergé penche pour le principe de réalité, Milou choisit le sceptre, ce qui, moi, me rend mi-chèvre, Milou. Moi, j'ai tendance à imaginer que la fiction raconte mieux le monde que la réalité, ou plus exactement que ces choses presque vues des contes et des légendes me poussent à comprendre les dérives du réel. Voir La Grande Bouffe me pousserait davantage à comprendre les excès d'une société qu'un séminaire sur manger en pleine conscience éveillé, mais c'est à chacun de savoir à quelle sauce il ne veut pas être mangé. Finalement, la seule question qui vaille, c'est la fin justifie-t-elle les moyens? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on écrit le mot fin? Fiction ou réalité, ce sont toujours les mêmes histoires.
Les choses presque vues, très savoureuses d'Éric Libiot à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Had I walked you home, said I'd see you later. You were living the dream, but when the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. Chose to drift away, and look at you now. We're on our way now. Truth can be so hard to swallow. Hey now, you got the love, you got the love, lady. I'm worn out. It's the very little trick they try to drag you. When the cold wind blows, you say the chill don't matter. Having the time of your life, but when you take those pills, does it make it better? Good luck in the afterlife. I hear the morning sun. Noel Gallagher's High Flying Birds, interprété We're on our way now.
Annie Ribéry, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Pourquoi tu manges si vite, Gauthier?
Par habitude.
Ouais, mais regarde, là on est le 14 juillet, on est bien, on est tranquille. Ça vaudrait peut-être le coup de se poser et de prendre le temps.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Tiens, on va faire un petit jeu. Avant de le manger, prends le temps de l'observer un petit peu, le gâteau.
Mmh.
Percevoir les formes, les contours.
Ouais.
Peut-être le sentir.
Mmh.
Puis après, pourquoi pas le mettre en bouche. Et avant de croquer et d'avaler, percevoir les textures. Prends le temps de le ressentir contre ton palais.
Mmh.
Et prendre le temps de le savourer. Et quand tu croques, de percevoir peut-être les parfums qui sont plus présents. Tu sens pas que c'est différent?
Je sens mieux les saveurs.
Mmh.
En fait, j'ai pas l'impression que c'est le même gâteau.
D'accord, ah oui. Donc tu vois, c'est parce que t'es plus présent à toi-même. Tu ressens plus ce que t'es en train de faire. Tout à l'heure, quand t'étais en train de manger, t'aurais fait autre chose, c'était pareil, t'étais pas à ce que tu faisais. Et là, tu ressens plus le gâteau en lui-même alors que c'est le même. Donc tout à l'heure, tu percevais pas ce qu'était vraiment ce gâteau. Et ça, c'est valable pour plusieurs choses. Ça peut être pareil pour le verre, tiens, si on trinquait.
Ouais.
À la tienne.
Santé.
Extrait d'une vidéo de France Bleu Mayenne. Cuisiner et manger en pleine conscience, c'est notre thème avec la complicité de Psychologie Magazine. Faustine, par courriel, nous dit « Je suis céramiste et je tiens à souligner l'importance du contenant, le plaisir que l'on a à manger dans une matière noble. » Héloïse Brion, c'est tout l'objet de votre livre de recettes, certes, Miss Maggie's Kitchen, mais il y a aussi de l'art de vivre également, qui passe par les ustensiles, les couverts, la décoration.
Exactement, pour moi c'est essentiel. En fait, ce qui est dans l'assiette est important, mais c'est tout un voyage qu'on va raconter avec le choix justement de la vaisselle qu'on peut chiner ou trouver. Moi, j'ai une amie qui fait des assiettes et des contenants magnifiques que j'utilise aussi, mais aussi trouver des branches dans le jardin, quelques fleurs, des produits de saison. En fait, c'était tout un voyage et ça raconte une histoire. Je pense que en fait, le moment du repas fait appel à tous nos sens et c'est important que ça passe par ce côté visuel.
Ariane Grumbach.
Quelque chose qui me paraît important à dire aussi, c'est que même si on est seul, on peut s'offrir ce plaisir-là et se préparer une jolie assiette, une jolie décoration, bien arranger les aliments, parce que c'est aussi un plaisir qu'on s'offre à soi.
Héloïse Brion, il est important d'aimer sa cuisine, même toute petite.
Ah oui.
Hein,
oui,
pour en faire un lieu chaleureux, propre, agréable, même dans une toute petite.
Exactement. Je pense que, enfin, pour moi, c'est la pièce, c'est le cœur d'une maison. Donc, on voit même dans les appartements parisiens, les cuisines sont souvent toutes petites et c'est souvent là où on passe les meilleurs moments d'une soirée quand on a des amis. Donc, il faut que ce soit un lieu exactement chaleureux. On s'y sente bien avec la décoration qu'on souhaite, les couleurs, etc. Mais c'est...
Qu'est-ce qu'on peut faire avec trois fois rien pour justement agrémenter une petite cuisine?
Alors déjà, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien voir les aliments. Donc déjà, et puis aujourd'hui, en plus avec tout le côté quand même par rapport à l'environnement écolo, je pense que c'est bien d'avoir des jolis bocaux, de noter dessus. Alors, ce sont les amandes, les pois chiches, etc. Enfin, de faire quelque chose comme ça, mettre quelques photos de famille et avoir quelques beaux contenants justement. Mmh. Je trouve que tout de suite, ça donne envie de d'être en cuisine, de partager.
Que l'on peut chiner pour trois fois rien. Thomas Hull, naturopathe.
Oui, l'objet est important. En effet, nous aussi. Si on a une céramiste qui prépare pour nous beaucoup de théières, de plats et d'assiettes, et c'est vrai que du coup on ritualise, on rentre dans du coup l'alimentation ritualisée où on passe et on se nourrit à travers les différents sens, comme vous le dites.
Merci. Bonjour Laurent, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors vous, pour faire manger vos enfants en pleine conscience, ça passe notamment par les ustensiles, par les couverts, par les contenants.
Exactement. J'avais jusqu'à présent une méthode très standard de faire manger, c'est-à-dire une assiette avec prédéfini, il y avait des choses dedans. Et j'ai décidé un jour de disposer sur la table des bols avec des contenus différents, divers légumes, couleurs différentes, et un bol c'est un élément, et ils choisissent et ils remplissent.
Mmh. Et ça marche.
Et ça marche super bien, parce que j'avais deux enfants qui étaient modérément faciles à mettre à table, et finalement ils se prêtent au jeu, ils choisissent la quantité, la couleur, le goût. Et puis ensuite, ils assaisonnent comme ils le souhaitent. Ça fait un peu mode self, mais c'est super.
Bon, ben c'est à faire. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. Flavia Maslin-Salvi, que faut-il retenir de la philosophie zen quand nous mangeons et cuisinons? Et bien, il faudrait plusieurs émissions.
Oui, mais tout ce qui a été dit jusqu'à présent, parce qu'en fait, le mot pleine conscience, c'est un mot qui est emprunté à la philosophie, à la spiritualité du zen, pleine conscience ou pleine présence, d'ailleurs. Hein, c'est Fabrice Midal qui tient à dire. Et moi, c'est vrai que je préfère aussi une pleine présence, hein, qui implique plus le corps et la conscience et la tête et le mental. Ben, le zen, c'est très simple, c'est être à ce qu'on fait, faire une chose à la fois. Il y a cet adage du zen très simple qui dit quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. C'est-à-dire,
ça paraît évident,
c'est
ça. Et banal. Hein.
C'est une évidence. Oui, mais on le fait pas. C'est ça qui est dur. C'est si on se dit, ben là, je vais. Quand je mange, je mange vraiment. Quand je marche vraiment. Je suis dans mon corps. C'est ça. Revenir à son corps, à ses sensations, ici et maintenant. Et il y a aussi une dimension qui est importante dans le zen, c'est la gratitude. C'est-à-dire que ce qui arrive dans notre assiette, et d'où l'importance, peut-être on en discutera, de savoir ce qu'on met justement dans notre assiette. C'est le moine Thich Nhat Hanh qui dit, devant un simple plat de haricots dans son bol, il remonte, il fait toute la filière, voilà, ces haricots, il remercie, il éprouve de la gratitude pour le paysan qui les a cultivés, pour celui qui les a transportés, pour la terre, le soleil, et il dit déjà, je suis relié à tous les éléments. Et un sentiment de gratitude.
Thomas Hull.
Un sentiment de gratitude, de reconnaissance, de lien. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de dire qu'on est ce qu'on mange, mais également ce que l'on mange engendre le monde dans lequel nous vivons.
Héloïse Brion.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est important aujourd'hui de savoir d'où viennent les choses. Et c'est pour ça que je vais au marché tous les samedis matins. Et il y a deux allées au marché où je vais en Normandie où ce sont les gens qui vendent ce qu'ils ont fait pousser dans leur jardin. Et ça vaut tout l'or du monde.
Prendre ce temps pour savoir d'où viennent les aliments, comment ils sont arrivés dans notre assiette, ça évite justement de se précipiter comme on le disait tout à l'heure, mais vraiment de conscientiser ce qui se passe là.
Je cite instruction au cuisinier zen. Maître Dogen nous dit dans ce livre, quand vous faites la cuisine, ne regardez pas les choses ordinaires d'un regard ordinaire, mais avec des sentiments et des pensées extraordinaires.
Oui. C'est ce sentiment de gratitude, de reconnaissance et d'humilité aussi. Parce qu'il y a aussi, c'est très important dans le zen et la cuisine zen, c'est qu'on doit être humble, c'est la frugalité, on doit gaspiller le moins possible, on doit tout utiliser jusqu'au dernier grain de riz. Et il y a aussi un autre principe, le Tenzo, qui est le chef cuisinier zen, qui doit faire le moins de bruit possible. C'est-à-dire qu'on manipule tout avec précaution et avec respect. Ça veut dire donc qu'on est en présence. On n'entend pas une cacophonie de casseroles, de couvercles, de plats qui s'entrechoquent. On est vraiment dans ses mains, dans l'instant, dans ses gestes.
Hélène Brion, des gestes qui peuvent apparaître banals et routiniers peuvent devenir une source de joie?
Ah, tout à fait. Moi, je trouve que ça fait partie pour moi, c'est important de cuisiner, alors seul ou avec les enfants ou avec des amis, mais ce sont des grands moments de bonheur en cuisine, avant même de passer à table.
Mais comment faire quand on cuisine par obligation, qu'on rentre fatigué du travail, qu'on doit nourrir ses enfants, qu'on rentre stressé, que faire pour échapper à l'ennui de cuisiner au quotidien, Ariane Grumbach?
Alors d'abord, moi, je voudrais réagir à ce que disait le gastro-entérologue. On peut tout à fait changer ses habitudes et justement, même dans son quotidien, après, il faut trouver la meilleure façon de prendre ce temps. Est-ce que c'est prendre un peu plus de temps le week-end quand on est plus tranquille? Est-ce que c'est prévoir un sas le soir? Alors, moi, je me souviens ceci dit, une personne dont le conjoint avait besoin d'un sas pour très bien cuisiner le soir, ça prenait 1h30, manger à 10h du soir. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, mais trouver le bon équilibre. Et il y a, dans le livre de Dana Veldon, elle parle du soji, qui est une notion zen, qui est effectivement prendre 20 minutes pour faire quelque chose qui apparaît comme une corvée, en s'y dédiant complètement. Et donc ça peut être aussi ça, la cuisine, plutôt que ce soit une corvée, se dire je m'y consacre et je prends le temps qu'il faut et je suis à ce que je fais pendant ce temps-là, plutôt que juste à se dire il faut préparer le repas.
Et puis Héloïse Brion, quand on cuisine au quotidien, rien ne nous oblige à faire des repas compliqués et sophistiqués. On ne participe pas à une émission de cuisine type Top Chef.
Hein. Exactement, avec des bons produits, on fait des choses très 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 simplement, très facilement, des soupes, des purées, des plats, mais ça prend pas énormément de temps non plus.
Bonjour Noémie, bienvenue.
Bonjour
Noémie. On vous écoute.
Bonjour à vous.
On vous écoute Noémie.
Excusez-moi, c'était à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je cuisine beaucoup tous les soirs. Mm-hmm. C'est ma séance de yoga, finalement. Mm-hmm. J'ai essayé le yoga et je ne réussissais pas à m'y astreindre. Par contre, oui, rentrer chez moi, préparer à manger et ouvrir une bonne bouteille de vin, profiter effectivement des légumes du jardin ou pas d'ailleurs, et voilà, et faire à manger, savoir que tout le monde va prendre du plaisir, moi la première. Et c'est aussi un voyage, quoi. Enfin, moi, je cuisine beaucoup, soit indien, soit thaïlandais, soit sénégalais. Enfin, voilà. Et c'est vraiment un petit voyage à chaque fois. Et c'est une séance de yoga. Enfin, c'est du plaisir. C'est juste un moment à moi, tranquille. Et voilà. Quelle qu'ait été en fait la couleur de la journée, ça se terminera forcément toujours par un moment qui est uniquement pour moi, et c'est agréable, quoi.
Flavia Mazelin.
Oui, dans ce que vient de dire Noémie, et je pensais à ce que disait Héloïse, et qu'elle raconte très bien en images et dans ses recettes, je crois qu'il faut retenir le mot plaisir. Manger en conscience, c'est pas une voie de l'austérité, de la prise de tête. On n'est pas sur son zafou, devant son mur, à méditer, à prendre « sainte carotte, je te vénère ». Non, c'est pas ça, c'est pas une prise de tête, c'est la joie. Et le livre, je dirais, c'est peut-être pas le point de départ de la philosophie zen du livre d'Héloïse, mais il est plein de ça, de cette philosophie de vie, de joie et de super simplicité. Voilà.
Oui, moi je pense qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, qui sont complexées en cuisine. Et donc je veux leur montrer que ça fait du bien, on se recentre, c'est un moment pour soi, mais c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de robots de dingue, d'ustensiles de dingue, si on a des bons produits, c'est un jeu d'association et puis ça ouvre la créativité aussi, c'est un moment de bonheur.
Merci beaucoup Noémie de nous avoir appelé. Marie-Laure Sunshine.
Oui, alors avant de déguster ces bons produits, il faut les acheter. Alors le marché quand on peut, on n'en a pas forcément près de chez soi, c'est souvent la corvée du supermarché, on traîne le chariot puis mécaniquement on fait tomber plein de trucs dedans. Là aussi, est-ce qu'il faut acheter en pleine conscience, c'est-à-dire avoir déjà en amont l'idée de ce qu'on va pouvoir faire, des recettes, finalement des 5 ou 10 produits alimentaires qu'il faut toujours avoir dans son placard ou son frigo pour pouvoir bien manger, bien cuisiner.
Héloïse Brion.
Alors, moi j'ai toujours une base, c'est vrai, à la maison. Ensuite, c'est vrai que c'est important pour moi, quand on me propose d'aller faire les courses pour moi, je c'est pas possible parce que c'est en fonction des produits que je vais trouver. Et la recette va évoluer en fonction de ce que je vais trouver, ce que mon primeur aura, etc. Mais je pense que c'est bien d'avoir une petite base à la maison, de choses simples, et ensuite on fait avec les légumes et les fruits de saison qu'on trouve. Mais voilà, je pense que les marchés, c'est l'endroit idéal. Ensuite, il y a des primeurs quand même, et essayer de trouver les bons produits, parce qu'on voit la différence au niveau des odeurs, même d'une pomme. C'est pas la même chose.
Thomas Hull.
Pour faire un lien avec le côté alimentation santé, il est vrai que le goût est important. Un aliment qui a été bien cultivé, qui est de saison, a un goût. Et là, on peut du coup répondre à tout le monde, notamment tous les gourmands et gourmets. Et c'est vrai qu'il est important, je pense, d'avoir en effet des produits de base, mais de sortir après, d'avoir beaucoup de créativité. Mais il est vrai que c'est un acte concret et c'est un acte complexe pour les uns les autres de s'approvisionner, et ça nécessite de fait de prendre un peu de temps pour ça, pour avoir du coup dans son assiette des aliments qui ont du goût et qui finalement génèrent une émotion.
Pour répondre à votre question, alors moi j'ai un credo, c'est qu'on est tous différents. Et je crois qu'il y a des personnes qui vont être créatives et avoir des idées devant les aliments, et il y en a qui ont besoin de partir, peut-être parce qu'elles ont un peu moins confiance en elles, avec une idée en tête d'un plat qu'elles ont envie de faire. Ils vont peut-être plus choisir en fonction de ça. Mais en revanche, effectivement, choisir en conscience, ça veut dire effectivement savoir d'où les choses viennent et comment elles ont été produites.
Flavia Mazelin Salvi, cuisiner fait du bien, surtout quand on partage, mais préparer pour les autres exige, vous l'écrivez dans votre hors-série de Psychologie Magazine, ça exige d'être au clair avec ses motivations et être en paix avec son ego. Expliquez-nous.
Oui, je pense à une émission qui était, c'est le dîner presque parfait pour ne pas la citer. Et quand la cuisine, quand la cuisine se transforme en show, en relation de pouvoir, je vais t'épater, je vais te montrer, et du coup les autres ils vont noter tout ça, ils vont évaluer. Je pense qu'on passe complètement à côté du plaisir, du partage, de la générosité, du sens. En revanche, c'est vrai que cuisiner pour les autres, c'est se dire, mais on se le dit au fond sans y penser, c'est quelle est, pour reprendre les mots d'Héloïse, quelle est l'histoire qu'on va raconter ensemble. Voilà, on a quelques on a quelques pistes de goût, d'intention, de un prisme par lequel on va dérouler son fil, et ensuite c'est vraiment une question de plaisir et de circulation, je dirais, d'énergie, de la parole, et surtout pas que où l'aliment on se prosterne pas devant son assiette et puis on n'en met pas plein la vue.
Merci beaucoup Héloïse Brion, Flavia Mazzolin-Salvi, Thomas Hull et Ariane Grumbach. On peut retrouver toute la bibliographie sur le site et sur l'appli France Inter. Demain, on évoque le plaisir de prendre le train.